Ton frère? Est-ce que grand-mère l'attendait? Non, je ne crois pas. Voici plus de 6 mois qu'elle l'attend. Je sais qu'elle lui a de nouveau écrit il y a 8 jours. Et ils questionnèrent Martine. Dame, monsieur, je ne peux pas dire, car depuis 4 ans que j'ai vu monsieur Maxime, lorsqu'il est resté 2 heures chez vous, en se rendant en Italie, il a peut-être bien changé. J'ai cru tout de même reconnaître son dos. La conversation continua. Clotilde paraissait heureuse de cet événement qui rompait enfin le lourd silence. Et Pascal conclut. Bon, si c'est lui, il viendra nous voir. C'était Maxime, en effet. Il cédait, après des mois de refus, aux sollicitations pressantes de la vieille madame Rougon, qui avait, de ce côté encore, toute une plaie vive de la famille à fermer. L'histoire était ancienne et elle s'aggravait chaque jour. À l'âge de 17 ans, il y avait 15 ans déjà, Maxime avait eu, d'une servante séduite, un enfant, sotte aventure de gamin précoce, dont Saccar, son père, et sa belle-mère Renée, celle-ci simplement vexée du choix indigne, s'étaient contentés de rire. La servante, Justine Mégot, était justement d'un village des environs, une fillette blonde de 17 ans aussi, docile et douce. Et on l'avait renvoyée à Plassans, avec une rente de 1200 francs pour élever le petit Charles. 3 ans plus tard, elle y avait épousé un bourrelier du faubourg, Anselme Thomas, bon travailleur, garçon raisonnable, que la rente tentait. Du reste, elle était devenue d'une conduite exemplaire, engraissée, comme guérie d'une toux qui avait fait craindre une hérédité fâcheuse, due à toute une ascendance alcoolique. Et 2 nouveaux enfants, nés de son mariage, un garçon âgé de 10 ans et une petite fille de 7, gras et rose, se portaient admirablement bien. De sorte qu'elle aurait été la plus respectée, la plus heureuse des femmes, sans les ennuis que Charles lui causait dans son ménage. Thomas, malgré la rente, exécrait ce fils d'un autre, le bousculait, ce dont souffrait secrètement la mère, en épouse soumise et silencieuse. Aussi, bien qu'elle l'adorât, l'aurait-elle volontiers rendu à la famille du père. Charles, à 15 ans, en paraissait à peine 12, et il en était resté à l'intelligence balbutiante d'un enfant de 5 ans. D'une extraordinaire ressemblance avec sa trisaïeule, tante Did, la folle des Tulettes, il avait une grâce élancée et fine, pareil à un de ces petits rois exsangues qui finissent une race, couronnés de longs cheveux pâles, légers comme de la soie. Ses grands yeux clairs étaient vides. Sa beauté inquiétante avait une ombre de mort. Et ni cerveau ni cœur, rien qu'un petit chien vicieux qui se frottait aux gens pour se caresser. Son arrière-grand-mère Félicité, gagnée par cette beauté où elle affectait de reconnaître son sang, l'avait d'abord mise au collège, le prenant à sa charge. Mais il s'en était fait chasser au bout de 6 mois, sous l'accusation de vices inavouables. 3 fois, elle s'était entêtée, elle avait changé de pensionnat, pour aboutir toujours au même renvoi honteux. Alors, comme il ne voulait, comme il ne pouvait absolument rien apprendre, et comme il pourrissait tout, il avait fallu le garder. On se l'était passé des uns aux autres dans la famille. Le docteur Pascal, attendri, songeant à une guérison, n'avait abandonné cette cure impossible qu'après l'avoir eue chez lui pendant près d'un an, inquiet du contact pour Clotilde. Et maintenant, lorsque Charles n'était pas chez sa mère, où il ne vivait presque plus, on le trouvait chez Félicité ou chez quelque autre parent, coquettement mis, comblé de joujoux, vivant en petit dauphin efféminé d'une antique race déchue. Cependant, La vieille madame Rougon souffrait de ce bâtard à la royale, chevelure blonde, et son plan était de le soustraire au commérage de Plassans, en décidant Maxime à le prendre pour le garder à Paris. Ce serait encore une vilaine histoire de la famille effacée. Mais longtemps, Maxime avait fait la sourde oreille, hanté par la continuelle terreur de gâter son existence. Après la guerre, riche depuis la mort de sa femme, il était revenu manger sagement sa fortune dans son hôtel de l'avenue du Bois de Boulogne, ayant gagné à sa débauche précoce la crainte salutaire du plaisir, surtout résolu à fuir les émotions et les responsabilités afin de durer le plus possible. Des douleurs vives dans les pieds, des rhumatismes, croyait-il, le tourmentaient depuis quelque temps. Il se voyait déjà infirme, cloué sur un fauteuil. Et le brusque retour en France de son père, l'activité nouvelle que Saccard déployait, avait achevé de le terrifier. Il connaissait bien ce dévoreur de millions. Il tremblait en le retrouvant empressé autour de lui, bonhomme avec son ricanement amical. N'allait-il pas être mangé s'il restait un jour à sa merci, lié par ses douleurs qui lui envahissaient les jambes? Et une telle peur de la solitude l'avait pris qu'il venait de céder enfin à l'idée de revoir son fils. Si le petit lui semblait doux, intelligent, bien portant, pourquoi ne l'emmènerait-il pas? Cela lui donnerait un compagnon, un héritier qui le protégerait contre les entreprises de son père. Peu à peu, son égoïsme s'était vu aimé, choyé, défendu. Et pourtant, peut-être ne se serait-il pas risqué encore à un tel voyage si son médecin ne l'avait envoyé aux eaux de Saint-Gervais. Dès lors, il n'y avait plus à faire qu'un crochet de quelques lieues. Il était tombé le matin chez la vieille madame Rougon, à l'improviste, bien résolu à reprendre un train, le soir même, après l'avoir interrogé et vu l'enfant. Vers 2 heures, Pascal et Clotilde étaient encore près de la fontaine, sous les platanes, où Martine leur avait servi le café, lorsque Félicité arriva avec Maxime. « Ma chérie, quelle surprise! Je t'amène ton frère !» Saisie, la jeune fille s'était levée, devant cet étranger, maigri et jauni, qu'elle reconnaissait à peine. Depuis leur séparation, en 1854,